Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, nous allons parler de Surrealistic Pillow, qui est le deuxième album de Jefferson Airplane. Il est sorti en 1967 sur le label RCA Records, est considéré comme l'une des pierres angulaires du Summer of Love, l'été de l'amour, et de la contre-culture des années 60, et nous en reparlerons. Jefferson Airplane, tout d'abord, c'est le groupe phare de la scène psychédélique de San Francisco durant les années 60. Jefferson Airplane naît en 1965 lorsque le chanteur, Marty Bellin, et le guitariste, Paul Kantner, décide de former un groupe folk-rock dans la veine des Byrds ou des Buffalo Springfield que nous avons vus récemment. Accompagné d'abord du bassiste Jack Cassidy, du guitariste Jermaine Cockenham, du batteur Skip Pence et de la chanteuse Signe Dolly Anderson, ils sont le premier groupe du terreau fertile de ce qu'on a appelé Haight Ashbury, qui était un quartier de San Francisco, et qui ont signé sur une major. Une major, c'est-à-dire une marque importante de disques. Leur premier album, Takes Off, sorti en 1966, toujours sur RCA, fut suivi de peu, en fait, par les défections de Skip Pence, le batteur, et de Signe Anderson, la chanteuse. À leur place arrivèrent l'impeccable Spencer Dryden, qui était un vrai batteur, lui, et surtout Grace Slick, que le groupe débauche du groupe The Great Society, et ça, ce fut un coup de génie qui changea la destinée de l'Airplane. En effet, provocatrice, menant un train de vie hédoniste et défendant avec fougue ses idées révolutionnaires, Grace Slick devint la figure de proue du groupe. Elle fut un apport important avec sa voix de contralto, qui s'harmonisait bien avec la musique psychédélique du groupe. En plus, dans ses bagages, elle a porté deux titres dont nous allons reparler. Ainsi donc, enregistré en 1967, dans les conditions du live, avec Jerry Garcia, qui devait créer Grateful Dead. Donc Jerry Garcia, guitariste de son état, fut le conseiller spirituel de l'album Surrealistic Pillow. Il dévoile ici les multiples visages d'un groupe au sommet de son art, tantôt versé dans des ballades de folk où brillent les harmonies à trois voix entre Grace Slick, Paul Kantner, le guitariste, et Marty Bellin, qui lui est un chanteur avant tout, mais également un grand producteur et là aussi un grand compositeur, et là aussi on en parlera. Et puis ils peuvent aussi produire un rock très bluesy, et c'est la raison de leur présence aujourd'hui dans l'émission. C'est donc sur ce type de morceau que l'identité psychédélique du groupe s'affirme le plus, avec différents morceaux dont nous parlerons. Des titres enlevés qui représentent l'essence même du rock psychédélique californien que le festival de Monterey allait bientôt révéler à la face du monde. Nous allons parler du premier morceau, She Has Fenekers, qui est le titre qui ouvre l'album, sorti en février 1967. Il est également paru en face B du single Somebody to Love en avril de la même année et dont on va reparler. Le morceau, donc She Has Fenekers, a été composé par Jermaine Cockenham, le guitariste, le lead guitariste pour la musique, et Marty Bellin pour les paroles. Il a également été dit que la chanson parlait de la Feneca, c'est-à-dire d'une petite amie du batteur Spencer Dryden, même si à aucun moment dans le texte on ne parle de voix. L'expression est simplement imagée et parle plutôt du charme de la jeune femme. Peut-être comme si on parlait d'une amusante carrosserie. À noter, Jack Cassidy, le bassiste, qui joue de la fuzz bass, Et cette chanson utilise le célèbre Bo Diddley Beat que nous avions déjà remarqué avec les Rolling Stones, comme l'effet fuzz dont je vous avais parlé aussi sur Satisfaction. Ce titre a donc été enregistré en octobre 1966, et pour info complémentaire, pour dire qu'il a marqué quand même les esprits, cette chanson apparaît dans un épisode de la série télévisée Stranger Things, diffusée en 2016. Et Chez Funny Cars, Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. La chanson suivante, Somebody to Love, était initialement intitulée Someone to Love. C'est une chanson rock, bluesy, un peu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction, qui a été écrite par le guitariste de The Great Society, Derby Slick, qui était en fait le beau-frère de Grey Slick, qui, après avoir réalisé que sa petite amie l'avait quitté, avait choisi un thème pour essayer de contrecarrer la tendance régnant sur San Francisco. En effet, il faut savoir qu'au milieu des années 60, San Francisco, c'était l'épicentre de l'amour libre. Aussi, le malheureux Derby Slick a vu un inconvénient majeur à cette grande libération des mœurs, car cela pouvait, dans son esprit, conduire à la jalousie et à se déconnecter. Cette chanson favorise donc en fait la fidélité et la monogamie, ce qui est assez nouveau à l'époque, car le chanteur nous implore de trouver ce véritable amour qui nous nourrira et nous aidera à traverser les moments difficiles de la vie. Cette chanson fut donc jouée pour la première fois par ce groupe, The Great Society, qui comprenait encore, mais pour peu de temps, Grey Slick au chant. Mais avec The Great Society, la chanson a eu peu d'impact en dehors du circuit des clubs de la baie de San Francisco. Elle a juste bénéficié d'une diffusion minimale en dehors de San Francisco. Dans la version de Jefferson Airplane, au contraire, guidé par la guitare lumineuse de Jorma Kokkonen, accompagné en sous-main par Paul Kantner, mais il y a aussi la basse mélodique de Jacques Cassady, qui là commence à imprimer sa marque dans la musique du groupe, mais surtout le rugissement menaçant de Grace Lick dans la chanson. Cette version tranche alors avec la pop californienne de l'époque, qui est un peu doucereuse. Ce titre obtiendra un fameux succès qui préparera en fait l'avènement du groupe dès le single suivant, et on y reviendra. À noter les échanges, donc, comme je vous le disais, entre les deux guitaristes, Jorma Kokkonen d'un côté et sa Gibson ES-335, avec Paul Kantner et sa Rickenbacker 360/12, qui, le pauvre, est disparu en 2016, mais curieuse anecdote, le même jour que la première chanteuse du groupe, Signe Anderson. C'était Somebody to Love de Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. L'écriture du morceau suivant, nommé Today, s'est répartie entre Marty Balin, qui était quand même l'auteur principal, Grace Lick, Paul Kantner et Jorma Kokkonen. Les deux derniers se consacrant principalement à la musique. Comme je le disais, même si Marty Balin en est l'auteur principal, il n'a jamais chanté une chanson plus jolie que Today, qu'il avait initialement prévu d'écrire pour Tony Bennett, dont il était fan, et qu'il savait présent dans le même studio RCA. Il aurait aimé lui proposer cette chanson, mais cela ne fut jamais possible, il ne l'a jamais rencontré. Le chant, donc, de l'enregistrement, est partagé entre Grace Lick et Marty Balin. Les paroles de Today sont très fortes et la mélodie, en revanche, est très calme, ce qui donne à la chanson un effet étrange et stupéfiant, sans jeu de mots. Cette chanson est à l'image de l'album en entier, qui a été finalement assez resplendissant pour l'époque, Et il s'est révélé finalement d'un équilibre heureux de tous ces éléments sonores, très créatifs, très divers. Et en tout cas, dont le groupe a profité avant que l'expérimentation trop excessive par la suite, tant musicale que chimique, n'ait commencé à affecter la capacité du groupe à faire des chansons aussi équilibrées. Ça reste pour moi néanmoins un des meilleurs albums réalisés par le groupe. Le seul regret que nous puissions avoir est que RCA n'a pas prévu d'enregistrement public lors des shows du groupe de l'époque, lorsque les chansons de l'album, et notamment celle-là, constituaient la majeure partie de leur répertoire. De cette façon, les versions live avec la créativité scénique que l'on connaît du groupe, qui était sans restriction, auraient pu être comparées avec celles du disque. Today, Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. La chanson suivante a été incluse dans l'édition anglaise de l'album Surrealistic Pillow. J'en ignore la cause, mais j'en profite pour vous faire écouter la voix de Signe Anderson, qui fut donc la première chanteuse de Jefferson Airplane. Chauffeur Blues est une chanson initialement enregistrée par Memphis Minnie, dont s'occupait Lester Melrose sous le titre Me and My Chauffeur Blues. Tout cela a été fait en 1941. Cette chanson a été reprise par de nombreux autres artistes, il faut le savoir. Mais l'enregistrement de 1941 attribue le rôle d'auteur-compositeur à Ernest Littleton Joe Lawlers, qui était en fait l'époux de Memphis Minnie, bien qu'il semble que ce soit elle en réalité qui l'ait écrite. La chanson a été aussi parfois créditée au producteur de l'enregistrement, Lester Melrose, ce qui lui a permis d'ailleurs de percevoir au passage des redevances alors qu'il ne l'avait pas du tout écrite. La mélodie, là aussi c'est important de le reconnaître, est identique à celle de Good Morning to Schoolgirl qui a été enregistrée par Sonny Boy Williamson le premier en 1937. Cette chanson fait partie des titres donc produits par Lester Franklin Melrose, né en décembre 1891 et décédé en avril 68, qui était un dépisteur de talent. Il fut l'un des premiers producteurs américains de disques de blues à Chicago. À bien des égards, Melrose peut être considéré comme un des fondateurs du blues de Chicago, bien qu'il ait privilégié les performances acoustiques par rapport aux performances électriques. La plupart de ses enregistrements ont été réalisés avec un petit groupe de musiciens des sessions, auquel d'ailleurs Muddy Waters a essayé de participer sans succès. Et d'ailleurs, il disait que la musique de Melrose ressemble un peu à du jazz doux, le soft jazz de avant l'heure. La musique était un mélange de rythmes, de styles de blues traditionnels et de vaudeville, mais avec de nouveaux rythmes de swing. Ces disques préfiguraient le blues et le rhythm and blues électrique de la fin des années 40, puis le son qui devint dominant avec le rock and roll. La version de cette chanson par Jefferson Airplane figure aussi dans l'album Jefferson Airplane Takes Off, le premier album. Son tempo est plus rapide et utilise seulement 3 des 4 versets de la chanson originale. A priori, c'est Jorma Kokkonen qui a amené Chauffeur Blues pour que Sigel Anderson la chante. Jorma a probablement trouvé la chanson sur l'album Folk Blues de Judy Roderick Woman Blue, paru en 1965, dont il parle souvent. Sigel l'a chanté avec une voix de contralto forte. À vous de comparer l'ancienne et la nouvelle chanteuse. C'était donc Chauffeur Blues par la première configuration de Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. La chanson suivante, Coming Back to Me, est une chanson folk rock écrite à nouveau par Marty Balin, qui, lorsqu'il en parle, rappelle que la chanson a été créée alors qu'il participait à une réunion entre musiciens. Réunion où la marijuana circulait beaucoup. Alors certes, réunion musicale organisée par le chanteur de blues Bob Patterfield, donc c'était essentiellement pour faire de la musique. En fait, après avoir terminé très rapidement la chanson, Marty est parti immédiatement au studio pour enregistrer sa composition avec tous les musiciens qui étaient disponibles à ce moment-là. La chanson sera ensuite reprise, il faut le savoir, par Ricky Lee Jones et Richie Evans. avec Lily Jones, qui est une chanteuse américaine qui fut assez célèbre pendant les années 60 et 70, et Richie Evans, qui était lui par contre très très connu dans ces années-là, et qui notamment a lancé le festival de Woodstock, en tout cas sur le film. Cette chanson, je trouve moi assez fabuleuse, en fait démarre sur une superbe introduction à la guitare, puis à la flûte, et elle constitue pour moi une des plus belles et des plus pures mélodies produites à l'époque. L'enregistrement en mono, cette chanson, met en évidence la partie basse, jouée par Jack Cassidy, qui mérite d'être écoutée attentivement. À noter aussi que c'est Jerry Garcia et non Jean-Mike O'Connell qui jouent l'intro de guitare, et Marty Balin qui joue celle à la flûte. Cette chanson est apparue sur la bande originale de plusieurs longs métrages, Flashback par exemple, et The Vidian Runner, Without Limits, bref, un certain nombre de films. Et quant à Marty Balin, il en a sorti une nouvelle version lors de la parution de son album solo paru en 1999, appelé Marty Balin Greatest Hits.
Summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. You came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sigh. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you. Yes, I saw you coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore, I realize I been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me.
Coming Back to Me de Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. On en vient maintenant à l'instrumental acoustique Embryonic Journey composé par le lead guitariste du groupe Jorma Kokkonen. Ce morceau est donc apparu sur l'album et il a été souvent repris dans des compilations du groupe. Il fit même l'objet d'un album spécifique sorti en 1970 par Jorma Kokkonen assisté de Tom Constanton. L'album s'appelait Making of Embryonic Journey. Selon les notes de l'album, Kokkonen a composé l'air en 1962 dans le cadre d'un atelier de guitare à Santa Clara et l'a inclus sur l'album Surrealistic Pillow à la demande du groupe. En fait, c'est un morceau simple, relativement court, moins de 2 minutes, mais qui dégage une sonorité très aérienne qui en fait un morceau particulièrement riche, malgré le fait qu'il n'y ait qu'une seule guitare dans l'interprétation. On ressent l'enregistrement live avec le bruit des personnes qu'on entend parfois autour du guitariste. Personnellement, j'aime beaucoup Jorma Kokkonen, surtout quand il joue avec son autre groupe, Hot Tuna. C'est un groupe de blues qu'il a créé en 1969 avec Jack Cassidy. Et ce morceau préfigure, dans mon esprit, ce qu'il va faire par la suite avec Hot Tuna. On peut deviner aussi son attachement à la recherche de sonorités nouvelles et d'interprétations originales, ce qui reste sa marque principale, je parle toujours de Jorma Kokkonen. Sa profonde culture blues ressort en permanence, même pour accompagner des chansons psychédéliques. Cette chanson est utilisée dans le film Purple Haze, dans l'épisode final de la série Friends également, dans le film The Rookie, et dans le film Berkeley, datant des années 60, et récemment encore sur une télévision commerciale britannique pour Norwich Union. Elle a également été incluse dans la bande sonore du film Walk on the Moon. Voici donc Embryonic Journey. Thank you. et c'était Embryonic Journey de Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. La chanson suivante est un mythe, elle s'appelle White Rabbit et c'est une des deux chansons amenées par Grace Leak lorsqu'elle rejoint le groupe en 1966. C'est un des plus importants succès du groupe Jefferson Airplane puisqu'elle atteignit la 8e place du Billboard Hot 100 lorsqu'elle parut en tant que single. Ce qui permit en fait au groupe d'être reconnu dans tous les États-Unis puis rapidement dans le monde entier. La chanson a été composée par Grace Leak vers la fin des années de l'année 65, puis jouée avec son premier groupe, The Great Society, avant de favoriser l'intégration de Grace donc, au sein du groupe Jefferson Airplane. Les paroles font référence à la drogue, clairement, plus particulièrement au LSD et à ses effets hallucinogènes. Avec ses paroles énigmatiques, cette chanson fut une des premières chansons abordant ce thème et qui pourtant ne fut pas censurée par les radios. Je vous en livre un petit extrait des paroles traduites en français. Rien qu'une pilule et tu grandis. Rien qu'une et te voilà petit. Celles que te donne ta mère n'ont aucun effet. Va, demande Alice, lorsqu'elle mesure 10 pieds de haut. La chanson trace ainsi un parallèle entre un trip, qu'on appelle donc l'usage de la drogue, et le monde imaginaire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Auteur à l'époque très populaire, tant chez les Beatles, qui en parle d'un I'm the Walrus, ou les Pink Floyd de Syd Barrett, qui était le premier leader du groupe. Cet hommage à Lewis Carroll fait mouche. Une génération entière, qui crée le mouvement d'ailleurs des hippies, se retrouve dans cette histoire troublante de jeunes filles fugueuses chassant le lapin blanc. Les paroles sont caractéristiques en fait des convictions de Grace Leak, autant dans Somebody to Love qui fait penser à Down on Me de Janis Joplin. À chaque fois, Grace Leak essaye de faire passer ses idées. Et sur le site officiel de Jefferson Airplane, on peut lire que Grace a toujours dit que White Rabbit était une gifle à l'attention des parents, qui lisaient à leurs enfants des histoires comme Alice au pays des merveilles, où Alice utilise diverses substances pour se transformer, et qui ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants se mettaient à essayer des drogues. Ainsi, White Rabbit devint un des plus grands drug songs de l'histoire du rock, reprise une trentaine de fois par différents artistes ou groupes.
Get up and tell you where to go.
écoutez White Rabbit de Jefferson Airplane sur OxyWeb Radio. Oui, avant d'aborder le dernier morceau de cet album que nous verrons et écouterons ce soir, oui, il faut bien le reconnaître, il y a beaucoup de surréalisme dans la folie de l'Airplane. La quête permanente de sens musical sera désormais un leitmotiv pour le groupe. Habitué des assises test, malheureusement, Jefferson Airplane est un des premiers groupes à populariser l'usage des drogues psychédéliques et à les mettre en musique. C'est certainement ce qui tache un petit peu l'histoire de ce groupe dans l'esprit général. Puisqu'il nous reste du temps, je voudrais vous parler un petit peu plus de chaque membre du groupe. Je parle des membres historiques, ceux qui ont véritablement joué pendant plusieurs années avec ce groupe. Je reviens sur Marty Balin, dont on a parlé plusieurs fois, qui est né en janvier 1942 à Cincinnati, dans l'Ohio. C'est le chanteur, c'est le compositeur de mélodies, auteur de paroles. Il tenait un club dans San Francisco lorsque Paul Kantner est venu lui proposer de jouer dans son groupe. Il a poursuivi sa carrière aux États-Unis, même après la fin de Jefferson Airplane, qui ensuite est devenu le Jefferson Starship, au fur et à mesure que les gens quittaient le groupe, notamment Jean-Marc Conen et Jack Cassidy. Il y a aussi Paul Kantner, qui lui est né en 1941, donc un tout petit peu plus jeune. Lui, il est né à San Francisco. Malheureusement, il est décédé, comme je disais tout à l'heure, en 2016, dans sa ville natale, San Francisco. C'est donc le fondateur de Jefferson Airplane. Il a suivi d'assez près l'évolution du groupe, même avec la P Jefferson Starship. Il a été le compagnon pendant quelques années de Grace Slick, qui lui donna une fille prénommée China. Jorma Kokkonen, lui, il est né en 1940, c'est donc le plus âgé. Il est né à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. C'est le lead guitariste du groupe et c'est aussi un des cofondateurs du groupe Hot Tuna avec Jack Cassidy. C'est un groupe, cette fois, beaucoup plus blues rock encore que ne l'était vraiment Jefferson Airplane. C'est un guitariste que j'aime beaucoup, que je suis encore et dont j'achète et j'écoute régulièrement les publications. Il a d'ailleurs créé une école de formation de guitaristes blues aux États-Unis. Jack Cassidy, donc, né en 1944, donc c'est un des plus jeunes du groupe, c'est un bassiste américain. Alors lui, il a ce site particulier, c'est outre le fait qu'il a suivi Jorma Kokkonen pour former Hot Tuna, son travail au sein de Jefferson a révolutionné le rôle de la basse dans un groupe de rock. Avec lui, le jeu mélodique a pris beaucoup plus d'importance, et comme il improvisait partiellement ses morceaux, également au niveau de la rythmique, il a souvent été considéré comme un peu le dieu de la basse par pas mal de critiques musicaux qui étaient assez étonnés de sa capacité à improviser quasiment sans cesse. J'en viens à Spencer Tridden, né en 1938, alors lui c'était le plus âgé du groupe. Il est décédé en 2005, c'était un musicien au départ batteur de jazz, puis il a évolué vers le rock. Il a joué dans des groupes comme New Riders of the Purple Age, Sedge, et il est malgré tout quand même resté très connu pour son rôle dans le groupe Jefferson Airplane. Son jeu était un peu particulier et il a amené, là aussi, beaucoup de fantaisie dans sa façon de jouer. Enfin, j'en viens aux chanteuses. D'abord, Signe Anderson, qui a été la première à rejoindre ce groupe. Elle est née en 1941. Elle est décédée, comme je le disais, le même jour que Paul Kantner. C'est assez étonnant. Elle aussi d'une crise cardiaque. En fait, elle est restée très peu de temps avec Jefferson Airplane parce qu'en fait, la carrière de chanteuse ne l'intéressait finalement pas du tout. Elle réprouvait un peu tout ce qui se passait autour du groupe, au niveau de la drogue et au niveau aussi du Star System. Enfin, je terminerai par Grace Slick, qui elle est née en 1939, donc elle était aussi relativement l'ancienne du groupe. Alors, elle a suivi tout le temps son groupe. Elle venait, elle, de Evanston, qui est dans l'Illinois, près de Chicago. Malgré tout, elle s'est très très vite adaptée à la vie de San Francisco. Et elle est restée, pour ainsi dire, toujours dans cette ville à partir du moment où elle a démarré sa carrière, qui, avec les différentes formations qu'elle a connues, et aussi avec toutes ses productions solo, elle a contribué finalement à populariser le rock psychédélique. C'est une artiste assez particulière parce qu'au-delà de son rôle de chanteuse, de compositrice, elle a été auteure de beaucoup de chansons de Jefferson Airplane et des autres groupes comme Starship ou d'autres, elle a été quand même, au-delà d'être une icône de la scène psychédélique, l'artiste peintre assez reconnue. Aujourd'hui, elle est considérée comme un peintre de grand talent. Donc je vous propose de terminer cet album avec un morceau qui s'appelle Plastic Fantastic Lover, qui pour moi résume assez bien l'état d'esprit qui régnait dans ce groupe, comme je l'ai dit, très surréaliste et je pense surtout très fantasque.
Sign. You could say she has an individual style. She's a part of a carnival time. Super steel lady, chrome covered clothes you wear, 'cause you have no other. But I suppose no one knows you're my plastic fantastic lover. Shuts all, there's nothing but a used machine. Her aluminum finish, slightly diminished, is the best I ever have seen. Cosmetic baby, plugged into me and never ever find another. And I realize no one's wise to my plastic fantastic lover. Electrical dust is starting to rust. Her trapezoid thermometer taste. All the red tape is mechanical rape of the TV program waste. Data control and IBM, science is mankind's brother. But all I see is draining me on my plastic fantastic lover.
C'était donc Plastic Fantastic Lover, Jefferson Airplane, sur OxyWeb Radio. Ce que je propose pour terminer cette émission, c'est d'écouter les deux principaux tubes qui ont jailli de cet album de 1967, en vous passant les deux versions en live. Je parle de Somebody to Love et White Rabbit, qui tous les deux ressemblent énormément évidemment à la version de l'album, mais vous pourrez apprécier tout le travail de guitariste et de bassiste qu'il y avait dans ce groupe, en plus des voix mélodieuses malgré tout, malgré le fait que ce sont deux rock, et qu'on voit quand même cette richesse du groupe au niveau vocal comme musical. La semaine prochaine, je vous parlerai des Beatles, Sgt Pepper's Lonely Hearts Band. Là, on vient de rentrer dans l'année 1967, qui, vous le verrez, est une année particulièrement riche et qui va donner lieu à la découverte de nouveaux artistes ou la confirmation d'anciens artistes qui laisseront une trace très très importante. Terminons par White Rabbit. Alors, à la semaine prochaine, et d'ici là, ben, roulez blues!